Le journal présenté par Adrien Toffolet.
Bonjour. Dans l'actualité aujourd'hui, Emmanuel Macron est au Mali pour le G5 Sahel, sommet des dirigeants africains de la région avec à la clé la création d'une nouvelle force militaire dédiée à la lutte contre les djihadistes dans la région sahélienne. Attentat meurtrier ce matin à Damas, 9 morts et des dizaines de blessés, la capitale épargnée par la guerre subit de nombreux attentats depuis plusieurs mois. Mobilisation hier à Hong Kong, des pro-démocratie parmi les revendications, l'indépendance réelle avec le pouvoir central mais aussi la libération du dissident malade, le prix Nobel de paix Liu Xiaobo. Paris-Rennes et Paris-Bordeaux, de nouvelles lignes de TGV mises en service aujourd'hui avec à la clé des perspectives économiques mais au prix de l'environnement, dénoncent des associations écologistes. L'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie, 10 ans après, le bilan de cette mesure est pour le moins décrié. Une nouvelle charte sur la déontologie des journalistes en vigueur depuis hier, en ces temps troubles où le travail des médias ne cesse d'être pointé du doigt de toutes parts. Et puis à la fin de ce journal, la face cachée du globe présentée par Nabila Hamel. Un G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme. Le Mali, pays hôte, accueille le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad pour un sommet qui doit faire naître une force militaire régionale. Elle aura pour mission de lutter contre le terrorisme dans la région sahélienne. Et pour ce G5 Sahel, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a invité son meilleur allié militaire dans la région, Emmanuel Macron, le président de la République, arrivé ce matin à Bamako, la correspondance d'Hervé Toutain.
C'est sous un orage diluvien qu'Emmanuel Macron a été accueilli ce matin au palais Koulouba sur les hauteurs de Bamako par ses pairs africains. Le chef de l'État, très attendu, est venu participer au lancement de la force conjointe africaine antiterroriste. 5000 hommes qui doivent combattre les groupes djihadistes dans le Sahel aux côtés des Français de la force Barkhane et des soldats de l'ONU de la MINUSMA. Cette nouvelle force ne devrait entraîner aucune hausse des effectifs français sur place. Barkhane soutient déjà quotidiennement les armées sahéliennes, formation, logistique, armement et renseignement. La présence d'Emmanuel Macron vaut engagement renouvelé de la France dans la région. Non, le problème est financier, qui va payer? Pour l'instant, seule l'Union européenne a promis 50 millions d'euros. Les États-Unis, réticents, ne veulent s'engager que dans des relations bilatérales. Emmanuel Macron compte donc sur l'Allemagne d'Angela Merkel pour hausser sa participation. Cette nouvelle force africaine pourrait-elle à terme remplacer Barkhane? La question n'est pas encore posée.
La question n'est pas encore posée, mais la réponse est attendue par le Mali, car l'un des enjeux pour la nouvelle force militaire, c'est son champ d'action. Les explications d'Anthony Fouchard.
Franchir les frontières, traquer les terroristes là où ils se trouvent, là où ils se réfugient, c'est l'objectif de cette nouvelle force militaire qui va se déployer sur cette immense zone sahélienne. Ce sont 5000 soldats qui sont attendus. Ce déploiement sur le terrain dont les contours précis et le financement restent à définir s'accompagne aussi d'accords en matière de justice pour faciliter la coopération. Le ministre garde des Sceaux du Mali, Mamadou Ismaïla Konaté, explique les difficultés actuelles.
Pour vous donner juste une image, pour extrader une personne poursuivie de faits criminels de Dakar à Bamako, 1h15 de vol, il nous faut en moyenne 8 mois de procédure. Pour aller à N'Djamena, c'est 12 mois de procédure. Ce temps que nous mettons est un temps qui tue une deuxième fois.
L'opération française Barkhane, avec 3500 hommes déployés dans cette même bande sahélo-saharienne, ne peut pas être partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron affirme autant son soutien à ce G5 Sahel, qui pourrait être à terme une voie de sortie pour l'armée française.
Et dans un nouveau geste de défi aux dirigeants de la région, la branche Al-Qaïda au Mali s'est manifestée ce matin, quelques heures avant le début de ce sommet du Sahel. Le groupe terroriste a diffusé une vidéo montrant 6 otages étrangers, parmi eux l'humanitaire française Sophie Petronin, enlevée en décembre dernier à Gao, dans le nord Mali. Jusqu'à présent, aucune revendication pour son enlèvement n'avait été formulée. Ça n'était pas arrivé depuis plusieurs mois. Damas, la capitale syrienne, a été touchée ce matin par un attentat suicide. Le dernier bilan fait état de 18 morts et plusieurs blessés. Précision de Laure Stéphan.
C'est sur une place du centre de Damas qu'un kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur de son véhicule. Un kamikaze qui était sous pression, il était poursuivi par les forces de sécurité. Ses victimes, des civils et des militaires. Selon des témoins, la détonation a été précédée par des coups de feu. Et si l'on en croit les informations rapportées par les médias d'État syrien, un scénario encore plus sanglant a été évité. Deux autres kamikazes circulaient en voiture aux abords de la capitale. Et ils ont également été pris en chasse. Et c'est sur une route à l'extérieur de Damas qu'ils se sont fait exploser sans faire d'autres victimes. L'attentat de ce matin sur la place Tahrir rappelle que les fiefs du pouvoir en Syrie restent exposés, même si depuis les accords d'Astana, les violences ont diminué dans le pays en dehors du front de Raqqa. Cela faisait cependant plusieurs mois que Damas n'avait plus été touché par un attentat. Jusqu'à ce matin, la dernière série noire remontait au mois de mars. Une attaque notamment qui avait fait des dizaines de morts avait été revendiquée par l'ex-front al-Nusra, allié d'Al-Qaïda. L'explosion de ce matin intervient à quelques jours de la reprise attendue des pourparlers d'Astana. Ces discussions sur l'avenir de la Syrie parrainées par Moscou, Ankara et Téhéran.
En Israël, Ehud Olmert libéré de prison ce matin. L'ancien premier ministre israélien de 71 ans avait touché des pots de vin lorsqu'il était maire de Jérusalem. Après un an et quatre mois passés en détention, il bénéficie aujourd'hui d'une remise de peine. Mais ce n'est pas pour autant la fin de ses ennuis judiciaires. La justice s'intéresse maintenant à plusieurs passages d'un futur livre qui serait susceptible de porter gravement atteinte à la sécurité de l'État. À Hong Kong, 60 000 manifestants pro-démocratie de cette région administrative spéciale ont battu le pavé hier, comme ils ont l'habitude de le faire tous les 1er juillet pour réclamer l'indépendance et des élections au suffrage universel direct. Ils ont également demandé la libération du dissident Liu Xiaobo. Ce prix Nobel de la paix chinois arrêté en 2009 en Chine est hospitalisé sous surveillance depuis quelques jours pour un cancer du foie en phase terminale. Liu Xiaobo est un symbole de la dureté du régime chinois pour les Hongkongais qui dénoncent une reprise en main de l'île par le gouvernement central de Pékin. Parmi les manifestants hier, le chercheur et sinologue de Sciences Po Paris, Jean-Philippe Béja, ami et traducteur de Liu Xiaobo, au micro de Dominique André.
Depuis son arrestation et même avant, évidemment, l'association de soutien au mouvement démocratique en Chine a beaucoup organisé de manifestations pour protester contre sa détention. Et évidemment, au moment du prix Nobel, il y a eu beaucoup d'enthousiasme parmi les démocrates de Hong Kong. Donc bien sûr, Liu Xiaobo, c'est largement le symbole même de la dureté du régime, de l'impossibilité d'avoir une véritable liberté d'expression qui naturellement concerne directement Hong Kong. Le fait que Liu Xiaobo ait eu le prix Nobel et que malgré ça, il est continué à être en détention, et si aujourd'hui il est au bord de la mort, c'est quelque chose qui est effectivement très inquiétant pour l'ensemble de la population de Hong Kong, notamment de tous les mouvements démocrates.
Et la manifestation a été comme à chaque fois encadrée par un important dispositif de police. Le président Xi Jinping, présent à Hong Kong pour les célébrations des 20 ans de la rétrocession de cette province à la Chine, avait prévenu que toute contestation du pouvoir du gouvernement central était absolument inadmissible. En France, nouvelle révélation concernant l'enquête préliminaire pour favoritisme dans l'affaire de la soirée Macron à Las Vegas, soirée organisée en 2016 sans qu'il y ait eu d'appel d'offres par Business France et au cours de laquelle Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait rencontré des dirigeants de start-up françaises. La présidente de Business France à l'époque, c'était Muriel Pénicaud, l'actuelle ministre du Travail, qui se défend en évoquant une erreur de procédure. Un fac-similé d'email de la directrice de communication de Business France, daté de 2015 et publié ce matin par le JDD montrerait qu'elle était bien au courant de ce qui se passait et qu'elle aurait fermé les yeux. Après les officiels hier, c'est au tour des passagers de tester la toute nouvelle ligne TGV Paris-Bordeaux aujourd'hui. Gain de temps, nouvelles perspectives économiques, mais à quel prix ? France Nature Environnement dénonce un chantier sale. L'association écologiste a d'ailleurs assigné deux sociétés de BTP devant le TGI de Nanterre il y a quelques semaines. Pour Anne Roch, juriste à la FNE, il y a eu des infractions à l'environnement sur toute la ligne.
Nous nous sommes rendus compte que les travaux qui ont pris des années entre Tours et Bordeaux sur tout ce tracé, beaucoup d'infractions ont été commises, par exemple par les sociétés COSEA et DTP, filiales de Bouygues et Vinci, et que donc pour cela, FNE agit en justice. Par exemple, des pollutions ont été causées sur le chantier, quand il fallait faire attention aux eaux polluées et ne pas les déverser dans les cours d'eau, cela a été déversé dans les cours d'eau. Quand on devait protéger des espèces et les empêcher d'accéder au chantier, elles étaient détruites. Et donc en fait, les arrêtés préfectoraux qui encadraient tous ces travaux n'étaient tout simplement pas respectés sur le terrain. Et nous, de notre point de vue, il est important de faire connaître au public ces infractions et d'agir aussi nous en justice. C'est pourquoi nous avons saisi le TGI de Nanterre. Donc le lancement de la ligne est pour nous pas forcément un succès du point de vue environnemental.
Anne Roch interrogée par Sandy Dauphin. La mesure devait bousculer le monopole d'EDF et GDF. Souvenez-vous, c'était le 1er juillet 2007. Le marché de l'énergie s'ouvrait à la concurrence. De nouveaux fournisseurs d'électricité et de gaz étaient autorisés à concurrencer les deux géants de l'énergie, à se lancer dans une bataille des tarifs. Alors 10 ans après, quel bilan peut-on faire de cette ouverture ? Cela-t-il réellement profité aux consommateurs ? Eh bien, le bilan n'est pas vraiment glorieux selon les associations de consommateurs et même constat d'ailleurs chez les fournisseurs d'énergie, Célia Quilleret.
Aujourd'hui, seuls 13% des particuliers se sont détournés d'EDF pour l'électricité et un tiers ont changé de fournisseur pour le gaz. L'ouverture à la concurrence n'a pas vraiment fonctionné et surtout, elle a compliqué la vie des ménages pour Alain Bazot de l'UFC Que Choisir, qui dénonce le démarchage abusif des clients.
On a eu une explosion de litiges avec des politiques agressives, des offres complexes, difficiles de comparer. Par an, c'est plusieurs milliers de litiges qui nous arrivent dans le réseau UFC Que Choisir.
Une vingtaine de fournisseurs se partagent le marché, les consommateurs les connaissent très mal et les prix n'ont pas vraiment diminué, même si les offres de certains sont légèrement en dessous des tarifs réglementés. Fabien Chaunet est le président de l'ANOD, l'Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Énergie. Il accuse les taxes.
Les taxes ont fait augmenter la facture d'environ 20% durant ces 10 ans. Les taxes de soutien aux différentes politiques énergétiques de la France, que ce soit en faveur de l'efficacité énergétique ou en faveur des énergies renouvelables, qu'on ne remet pas en cause. Donc malheureusement, cette évolution de taxes a nuit à la représentation de l'avantage de la libéralisation pour les consommateurs.
Fabien Chaunet, le patron de Direct Energy, souhaite d'ailleurs que les tarifs réglementés du gaz soient tout simplement supprimés. Le Conseil d'État tiendra une audience sur cette requête le 7 juillet.
C'est le lien qui irait. Dans un climat d'hostilité grandissant envers les médias, notamment pendant les dernières élections, une nouvelle charte de déontologie dans les rédactions a fait son apparition hier. Une obligation prévue dans la loi pour la liberté, l'indépendance et le plus pluralisme de la presse de novembre 2016. Théoriquement, chaque entreprise doit débattre de cette charte avec les représentants des journalistes pour évoquer les droits et les obligations déontologiques. Mais entre les bonnes intentions contenues dans la loi et la réalité du terrain, il pourrait y avoir un grand décalage. Éclairage d'Abdallah El Idrissi.
La loi impose théoriquement un grand débat autour des questions de déontologie dans les rédactions qui n'ont pas encore de charte. Mais depuis un mois, le SNJ, principal syndicat de journalistes, constate que plusieurs directions de médias cantonne ce débat à des petits groupes de travail dont les membres sont choisis unilatéralement par la direction et sont souvent composés essentiellement de cadres. Alors que la loi, elle, indique clairement, je cite, « cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes ». Et c'est là l'une des principales limites de ce texte, son manque de précision qui laisse le champ libre à toutes les interprétations. Pour schématiser, les directions voudraient profiter de cette charte pour introduire toute une série d'obligations contraignantes pour les journalistes qui seraient quasiment les seuls comptable des dysfonctionnements, tandis que les syndicats plaident, eux, pour des chartes centrées sur les obligations des journalistes, certes, mais aussi sur les obligations des patrons. La loi reconnaît en effet aux journalistes le droit de refuser un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique, sans risquer de sanctions. Reste à savoir ce que contiennent les chartes. En cas de manquement, la loi prévoit des sanctions financières à l'encontre des entreprises de presse, à savoir la suppression de tout ou partie des aides publiques. Un avocat spécialiste de la question regrette d'ailleurs cette immixtion des pouvoirs publics dans un débat sur la déontologie qui devrait, selon lui, relever exclusivement de la corporation des journalistes.
12h43 sur France Culture, on retrouve la face cachée du globe avec vous, Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour Adrien. Le budget des casques bleus est réduit de 600 millions de dollars, une baisse entérinée jeudi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis, premier contributeur, avaient demandé une réduction plus significative de l'ordre de 13%. Elle sera de 7,2% et les missions les plus touchées par cette baisse seront la MINUAD dans la région du Darfour au Soudan et la MONUSCO en RDC. Des ONG pour la défense des droits de l'homme estiment ces coupes mal avisées et expliquent par exemple qu'au Darfour, le conflit est loin d'être achevé. Contrairement à ce qu'annonce Khartoum, car l'accès des humanitaires aux civils y est toujours problématique. Le président du Sinn Féin est pessimiste et juge très improbable un accord entre les partis politiques nord-irlandais d'ici demain. Gerry Adams se juge néanmoins possible pour les nationalistes partisans d'un rattachement à la République d'Irlande de s'entendre avec le parti unioniste démocrate, le DUP, qui vient de rejoindre la coalition gouvernementale de la première ministre Theresa May, mais à condition qu'elle fasse des concessions. Le quatrième délai accordé aux partis politiques nord-irlandais n'a rien donné. Le ministre chargé des affaires de la province doit s'exprimer demain au Parlement de Westminster. Excédé par des sénateurs républicains qui planchent depuis des mois sur une formule de compromis à propos de certains éléments seulement de l'Obamacare, Donald Trump y est allé de sa pression vendredi par un tweet. Le président américain leur a suggéré d'abroger immédiatement la loi de 2010 et de repousser à une date ultérieure la réforme totale du système de santé selon des principes conservateurs. Réaction de la députée démocrate Jerry Bustos, c'est comme pousser des millions d'Américains hors de l'avion et chercher plus tard les moyens de trouver des parachutes. Rodrigo Duterte bouclait vendredi sa première année de pouvoir à la tête des Philippines. Sa réputation a dépassé les frontières de l'archipel avec son discours ultra-répressif, ses répliques vulgaires contre tous ceux qui viendraient à le critiquer et surtout, sa guerre sanglante assumée et encouragée pour officiellement éradiquer le trafic de drogue. Aujourd'hui, celui qui garde malgré tout une certaine cote de popularité auprès de ses concitoyens est englué dans une autre guerre à Marawi, dans l'île de Mindanao, une guerre contre des djihadistes affiliés à l'organisation État islamique. Bilan d'une année de présidence Duterte avec Marianne Dardar, la correspondante de RFI à Manille pour France Culture.
Bilan mitigé pour Rodrigo Duterte, un an après sa prise de pouvoir. Son administration se vante du succès de sa campagne anti-drogue, mais le narcotrafic est loin d'avoir disparu des rues. Et de l'aveu même des autorités, le prix de la drogue aurait baissé. En un an, la guerre anti-drogue a tué au moins 7000 personnes, dont près de la moitié abattues par la police, alors que les ONG de défense des droits de l'homme et les médias locaux vont eux jusqu'à avancer le chiffre de 10 000 morts en tout. Dans les sondages, Rodrigo Duterte reste pourtant populaire auprès de plus de 70% des Philippins, mais 90% souhaitent que les narcotrafiquants soient capturés en vie. À terme, une autre guerre risque de ternir la popularité de Rodrigo Duterte, celle contre le terrorisme, alors que le bilan de la bataille de Marawi, dans le sud, dépasse les 400 morts. C'est même devenu la plus grave crise du mandat de Rodrigo Duterte. À demi-mot, l'armée philippine a ainsi admis un échec de ses services de renseignement après avoir sous-estimé les effectifs terroristes à Marawi. Autre exemple, les Philippines ont finalement fait appel à l'assistance technique de l'armée américaine, alors que Rodrigo Duterte avait pourtant insulté l'ancien président des États-Unis, Barack Obama.
La baie de Piranha, ou du moins une partie de cette baie sur l'Adriatique, était à l'origine d'un contentieux frontalier entre la Slovénie et la Croatie. Depuis jeudi, une décision de la justice internationale a octroyé à la Slovénie, qui ne compte que 46 km de côte, un accès direct aux eaux internationales. Jacques Rupnik, directeur de recherche à Sciences Po Série, revient sur ce différend qui date de l'indépendance de ces deux ex-républiques yougoslaves et qui a été tranché au terme de 8 ans de procédure.
Ce qui était important pour les Slovènes, c'est qu'il y ait une zone d'accès, un corridor d'accès aux eaux internationales pour les bateaux slovènes. Elles doivent traverser des zones territoriales croates. C'était ça le problème, en fait. C'est un contentieux qui remonte à l'éclatement de la Yougoslavie en 1991 et la déclaration d'indépendance de la Slovénie puis de la Croatie n'avait pas suscité sur le moment de problèmes majeurs puisque la grande question pour la Croatie, c'était l'affrontement avec la Serbie. Ce n'est que plus tard que cette question est réapparue. Il a fallu aller devant un tribunal international. La Slovénie, à la suite de cela, avait organisé un référendum puisque c'était considéré par elle comme indispensable de régler ce contentieux avant l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne. Or, la Croatie est rentrée dans l'Union européenne et elle a en quelque sorte réouvert le contentieux sur les eaux territoriales, mais la décision qui a été donc rendue le 29 juin est, je crois, très importante. Je crois en particulier la Slovénie attend depuis longtemps le règlement de ce contentieux.
La Croatie a tout de même annoncé qu'elle ne respecterait pas cette décision.
Tout ce que peut faire la Croatie maintenant, c'est de l'obstruction dans l'application. La Croatie donc émet des doutes sur l'application et je crois que ça va être un test là de la capacité de l'Union européenne à faire dialoguer deux pays qui sont à la fois deux pays ex-yougoslaves, qui ne se sont jamais fait la guerre, qui n'ont pas de problème d'animosité particulière et qui sont donc membres de l'Union européenne. C'est quand même singulier. En principe, pour rentrer dans l'Union européenne, il faut avoir surmonté ces conflits frontaliers avec ses voisins. La Croatie avait fait mine d'accepter la situation. Une fois dans l'Union européenne, elle a remis en cause cela. Ça donnerait très mauvais exemple aux autres pays des Balkans qui, eux aussi, ont des contentieux plus ou moins importants et qui, eux aussi, aspirent à rentrer dans l'Union européenne. Mais, quand on est un gouvernement nationaliste comme le gouvernement croate, on veut montrer qu'on défend mordicus l'intégrité territoriale et voilà.
Johnny Clegg a entamé vendredi au Cap ce qu'il a appelé son dernier voyage à 64 ans. Celui que l'on appelle le Zoulou Blanc a décidé de mettre fin à une carrière de 40 ans au service de la résistance à l'apartheid. Johnny Clegg, qui a lutté depuis 2 ans contre un cancer, est en rémission, mais il explique que ses spectacles sont très physiques et qu'il lui faut faire ses adieux tant qu'il en est encore capable. Cette dernière tournée le mènera en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis et au Canada. À dimanche prochain.
Ou plutôt à la rentrée prochaine. Bonnes vacances, Nabila Hamel. Le temps cet après-midi, maussade comme ce matin, de la pluie et des nuages un peu partout en France, sauf la Méditerranée qui aura droit à un temps estival. Les températures maximales évolueront entre 18 et 23 degrés, jusqu'à 28 dans le sud-est.